Bonjour,
Bonjour Anne-Nebiran.
table ronde science-fiction.
Exactement, c'est important un peu de fiction dans cet univers parfois trop réel. Tous les matins, nous nous réveillons avec une actualité qui aurait pu être une nouvelle de science-fiction il y a 30 ans. Ce constat, c'est celui du directeur éditorial de Mnemos, l'une des maisons d'édition à l'origine de l'appel de l'imaginaire qui le dresse. Et de fait, la SF est plus populaire que jamais. Cinéma, séries, jeux vidéo, littérature jeune adulte. Jamais le public n'aura été aussi avide de science-fiction qu'aujourd'hui. Et pourtant, l'édition dite de l'imaginaire est à la peine. Les ventes de livres ne suivent pas cet engouement populaire et des titres qui relèvent pourtant de la science-fiction sont récupérés par les collections dites blanches au détriment des éditeurs spécialisés. Il y a urgence à sauver les anticipateurs. Que résonne l'appel de l'imaginaire ? C'est l'ambition qui est la nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire résonner puissamment cet appel, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jérôme Vincent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des éditions ActuSF, hein, c'est vous qui êtes à l'origine en quelque sorte de cet appel de l'imaginaire qui a été lancé fin mars au salon Livre Paris. Nous avons également le grand plaisir d'accueillir Catherine Dufour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancière double lauréate, et ce n'est pas rien, du Grand Prix de l'imaginaire, qui est, on va le dire, un peu la consécration suprême de ces littératures en France, hein, l'équivalent du prix Hugo, et également Olivier Girard, bonjour.
Bonjour.
Co-fondateur des éditions du Bélial, également signataire de l'appel. Mais avant de plonger dans ces contrées futuristes et fantastiques, il est à lui seul l'incarnation de l'avenir, du passé et du présent. Il est bien réel. C'est Xavier Martinet pour le Journal des Sciences. Bonjour Xavier.
Bonjour Nicolas.
Le Journal des Sciences.
Et pour commencer ce journal des sciences, la sonde Cassini vient de commencer depuis mercredi la fin spectaculaire de son voyage autour de Saturne avec une première dans l'exploration spatiale.
Oui, puisqu'à 110 000 km/h et pour la première fois, un objet est passé sous les anneaux de Saturne dans cette zone en fait de 2400 km jamais explorée entre l'anneau intérieur et la planète. La sonde de la NASA a frôlé le sommet de l'atmosphère gazeuse de Saturne à 2000 km à peu près et a rasé le bord intérieur de l'anneau. Là, à 300 km seulement. Mission donc audacieuse, a salué le Télégraphe, puisque dans cette zone si proche de l'anneau, on craignait en effet les risques de collision avec des particules ou des objets plus gros qui auraient pu détruire carrément la sonde, malgré l'utilisation de l'antenne comme bouclier. C'est important puisque Cassini doit refaire 21 fois ce passage. Alors, pour le moment, on a déjà quand même les premières images. Ce sont les plus proches jamais prises de Saturne, commentées par la responsable des données de Cassini à la NASA, Linda Spilker.
Cassini va bien. Aucun incident ne lui est arrivé durant ce vol et c'est évidemment une nouvelle qui nous réjouit. Et comme la sonde a survécu à ce tout premier passage quasiment dans l'anneau, nous sommes confiants pour les prochaines orbites. Lors de ce premier passage si près de Saturne, nous l'avons photographié du pôle Nord jusqu'à l'équateur. Et nous avons des vues très détaillées de l'ouragan situé au pôle Nord. On voit l'hexagone géant de Saturne et on distingue nettement les six courants du jet stream qui forment les côtés. Et puis, dans cette région, on a observé tous ces petits renflements nuageux. Et quand un spécialiste de Saturne a vu ces images, il a dit « Waouh, je n'avais jamais vu ça auparavant ». Ce sont peut-être des orages, mais il y a beaucoup d'hypothèses. On a vu aussi qu'au fur et à mesure qu'on s'approche de l'équateur, il y a de plus en plus de brume dans l'atmosphère de Saturne. Et donc, ce qu'on perçoit pour l'instant, ce n'est que cette couche supérieure de brume qui masque les formations nuageuses en dessous. Mais il y a de bonnes chances d'en savoir plus en retravaillant ces images. Pour l'instant, ce que vous pouvez voir en ligne, ce sont les images brutes. C'est exactement ce que Cassini nous a envoyé. Mais vous savez, la résolution ici est 80 000 fois supérieure à tout ce que nous avons jamais photographié avec Cassini. Et rien qu'avec ces premiers clichés, nous commençons déjà à avoir des détails jamais vus.
Et Cassini va donc plonger tous les 7 jours dans cet espace entre la planète et l'anneau et va continuer à fournir des données inédites, Xavier.
Oui, en astronomie notamment, elle va s'orienter dans une autre direction pour photographier les anneaux et les scientifiques vont aussi pouvoir résoudre deux énigmes importantes, la masse de ces anneaux et le champ magnétique de Saturne qui est lié à sa structure interne. Puis les instruments vont aussi en quelque sorte respirer les poussières des anneaux, étudier la dynamique de l'atmosphère et l'échantillonner également. Là, ce sera lors de la plongée finale à la fin de l'année. Et puis Cassini aura surtout des suites dans l'exobiologie, puisqu'il y a quelques jours, la NASA a aussi validé dans son programme New Frontier des projets de sondes atmosphériques pour Saturne et d'exploration pour ses lunes Titan et Encélade. Alors pourquoi cet intérêt? Eh bien, c'est justement ce qu'a permis de comprendre l'étude de Saturne par Cassini. Les lunes des géantes gazeuses sont propices à la vie, ce que nous explique Nicolas Altobelli, responsable de Cassini Huygens à l'Agence spatiale européenne.
Cassini a vraiment révolutionné notre vision d'où on devrait chercher et où est-ce qu'on pourrait trouver de la vie telle qu'on la connaît. Et je fais référence, bien entendu, aux lunes glacées de Saturne, comme Encélade, comme Titan aussi, où on a trouvé des océans d'eau liquide sous la surface glacée. Ça a été vraiment une découverte majeure de Cassini en 2005 pour Encélade, les geysers au pôle sud. Et ça ouvre en fait tout un nouveau pan de recherche, l'habitabilité des lunes de glace autour des géantes gazeuses. Donc ça, c'est un thème à part entière qui va être continué par notamment à la fois la NASA et l'ESA avec deux missions, donc Europa Clipper pour la NASA et JUICE pour l'ESA. On va envoyer en 2022 la mission JUICE qui va rejoindre le système Jovien et faire une étude détaillée de l'habitabilité des lunes de glace de Jupiter, donc Europe, Ganymède et Callisto. C'est ça qui est très intéressant et que Cassini a démontré de façon éclatante, c'est qu'on n'a pas besoin d'être dans la zone de stabilité de l'eau liquide à la surface d'une planète, même si elles sont loin de leur étoile respective, pour générer de la chaleur par friction dans les croûtes de glace. Et cette chaleur suffit à maintenir une température qui permet à l'eau liquide d'exister sous la surface. Donc c'est vraiment un principe assez général et il semblerait, on pourrait imaginer que les lunes glacées autour des géantes gazeuses soient un habitat très répandu dans la galaxie.
En bref, la NASA serait en revanche en retard de plusieurs années sur son nouveau programme de scaphandre spatial.
Oui, c'est en tout cas ce que dit un rapport d'audit de l'agence, puisque ce sont toujours les mêmes scaphandres qu'on appelle IMU, scaphandre d'activité mobile extravéhiculaire, qu'on voit dans la mission Apollo jusqu'à Gravity, que l'agence utilise depuis plus de 40 ans, alors qu'ils étaient prévus pour durer 15 ans. Le programme de remplacement, depuis plusieurs années, a coûté déjà 200 millions de dollars, et malgré la présentation de nouvelles combinaisons légères par Boeing en janvier dernier, les tests ne commenceront pas avant 2018. À noter dans ce rapport que l'absence d'un programme d'exploration humaine a compliqué apparemment la tâche de la NASA.
En France maintenant, le ministère de la Recherche veut une loi pour protéger les chercheurs des plaintes en diffamation.
Oui, là c'est un rapport qui vise à lutter contre l'extension des procès faits aux chercheurs, notamment par de grandes entreprises. Le rapport cite ainsi des professeurs d'économie ou de droit, mais aussi des scientifiques qui ont fait l'objet d'attaques, par exemple sur les travaux qui concernent la cigarette. Il s'agirait donc d'introduire une amende de 15 000 euros maximum contre ceux, je cite, qui agissent en justice pour entraver la liberté d'expression. C'est donc une protection supplémentaire aux droits existants et qui permettra aussi de lutter sans doute dans le cas d'affaires complexes comme les plagiats contre les plaintes d'institutions contre des chercheurs.
Et puis le physicien et producteur de la conversation scientifique sur France Culture tous les samedis, Étienne Klein, a été démis de son poste à l'IHEST.
Oui, précisément, le physicien Étienne Klein était accusé de plagiat depuis des révélations de l'Express en novembre dernier. Il l'avait reconnu en partie, des emprunts, des citations sans source, négligence qu'il disait due à une activité trop prolifique. Mais devant les interrogations médiatiques, il répondait qu'il ne démissionnerait pas de l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie. Et bien, dans un décret mercredi dernier, le président de la République en a décidé autrement.
Deuxième sujet du jour, pardon, un utérus artificiel pour aider les grands prématurés à survivre, c'est ce qui pourrait advenir grâce à un essai qui vient d'avoir lieu aux États-Unis.
Oui, une grande équipe de néonatalité de l'hôpital pour enfants de Philadelphie est parvenue à faire survivre sans dommage 8 agneaux prématurés extrêmes retirés à 23 semaines dans un sac en plastique. Ils ont survécu, sac qui reproduit les conditions propres à un utérus en gestation. Aussitôt donc surnommé par la presse utérus artificiel, ce sac qui s'appelle Biobag est en fait plutôt un incubateur respirateur ou une couveuse ultra perfectionnée. L'idée est donc d'améliorer les chances de survie de ces grands prématurés, évalué à 90% le risque de mortalité et puis de survie en bonne condition surtout, puisque 60 à 70% de ces prématurés auraient des séquelles. L'appareil est donc une poche emplie d'un liquide qui reproduit le liquide amniotique nourrissant. Le cordon ombilical est raccordé à un circuit d'oxygénation comme si c'était le placenta maternel. Et puis, c'est le cœur du fœtus qui assure la circulation du sang. Ça a l'air assez simple, mais c'est techniquement très compliqué puisque les expériences similaires entraînaient une mortalité importante par infection ou malformation. Cette fois, donc, les agneaux étaient en bonne santé. C'est donc une prouesse et un espoir pour les humains, pour la biologiste du développement Pascal Chavat-Palmer qui avait recensé il y a quelques années ces études.
La grosse rupture par rapport aux travaux précédents des autres équipes, hein, puisqu'il y a plusieurs équipes dans le monde qui travaillent dans ce domaine, c'est qu'ils ont tenu 28 jours avec des paramètres biochimiques et biologiques des animaux qui sont restés stables et une croissance des animaux qui était présente. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et donc, à la fin, ils sont même arrivés à ne pas avoir à transfuser les animaux dans les derniers fœtus. On n'a pas tous les détails sur comment ils maintiennent la température, etc. Mais on voit bien que c'est le fruit d'une longue expérience et une longue collaboration avec aussi des ingénieurs. Ensuite, eh bien bon, voilà, c'est un modèle animal. Donc en particulier sur les effets cérébraux, le mouton ne reproduit pas exactement le développement cérébral de l'humain, donc il y a des choses encore à résoudre. Ils ont un agneau qu'ils ont gardé, apparemment jusqu'à 6 mois, et bon, ils ont gardé le développement cérébral et il n'y a pas des signes d'hémorragie. Donc bon, c'est pas énormément d'animaux, mais si ça s'avère se confirmer, c'est très prometteur et ça serait peut-être une façon de traiter ces tout petits bébés qui font 500 grammes, au moins pendant un temps, avant ensuite de les placer sous couveuse.
En bref, l'entomologie au secours de l'écologie, des chercheurs espagnols ont découvert une chenille qui est capable de manger le plastique, Xavier.
Oui, en fait, c'est la larve d'un papillon qu'on appelle la faustaigne de la cire, petit papillon d'un centimètre et peu aimé des apiculteurs parce qu'il mange les rayons des ruches d'abeilles. Or, ces larves peuvent aussi dévorer le polyéthylène, c'est ce qu'ont montré des chercheurs espagnols après s'être aperçus qu'elles mangeaient aussi les sacs plastiques dans lesquels on plaçait les ruches infectées. Elles l'ingèrent donc ce plastique et puis elles le digèrent. Une expérience a montré que 100 larves ont mangé 92 mg de plastique en 12 heures, soit à peu près 2 mg par jour et par larve. C'est pas mal, 20 fois plus vite que les bactéries, en tout cas découvertes l'an dernier. L'idée maintenant est donc de trouver l'enzyme supposée capable de briser les liaisons chimiques du plastique et de la reproduire à grande échelle.
Les premiers humains seraient arrivés en Amérique du Nord 100 000 ans plus tôt que ce que l'on croyait.
Oui, étonnant, jusque-là, on datait cette apparition à moins 14 000 ans en raison d'outils et de morceaux de charbon qu'on avait retrouvés au Canada. C'était donc des traces humaines. Et bien là, ce sont les os d'un mammouth retrouvé en Californie, il y a une trentaine d'années, qui a donné la clé de cette hypothèse avec des os étrangement fracturés et disposés à côté de grosses pierres qui ont donc conduit les chercheurs du musée d'histoire naturelle de San Diego à éliminer toutes les autres hypothèses. Ce sont bien des hominidés qui ont fracturé les os de ce mammouth il y a 130 000 ans. Reste donc à savoir qui.
Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable, une étude qui va peut-être réconforter les couples qui battent de l'aile. Des chercheurs ont découvert l'hormone de la fidélité.
Oui, on croyait qu'elle servait à l'attachement, cette ocytocine. Eh bien, les chercheurs de l'université de Bonn ont aussi vu que cette hormone produite par l'hypothalamus peut servir effectivement à la fidélité. Ils ont voulu tester son effet sur des personnes en couple et ils ont choisi là des hommes hétérosexuels. Alors, un groupe en couple, un groupe de célibataires à qui ils ont fait respirer un spray de l'hormone et puis un dernier groupe à qui on distribuait un placebo. L'expérience, donc, mise en présence d'une jolie femme placée à 60 cm au-delà de ce qu'on appelle la distance sociale, eh bien les célibataires et le groupe placebo se sentaient apparemment à l'aise. Les hommes en couple sous ocytocine ont reculé de, je cite l'étude, 10 à 15 cm en moyenne. Conclusion des chercheurs, l'ocytocine favorise la fidélité et la monogamie chez l'humain, comme on l'avait découvert en 2001 chez les campagnols.
Eh bien, Xavier Martinet, nous allons vous laisser retourner à vos campagnols. Une étude qui semble intéresser particulièrement nos invités. Catherine Dufour, elle a l'air un peu dubitative, tandis que Jérôme Vincent et Olivier Girard sont hilars. Catherine Dufour, peut-être un mot sur cette
Oui, étude. Moi je croyais que c'était la vasopressine qui augmentait le sentiment paternel chez les rats. Vous voyez, on en apprend tous les jours.
Jérôme Vincent, intéressé par ces études sur l'ocytocine ?
Je trouve ça génial. La science, c'est ça. C'est ça nous fait rêver, ça nous fait rire. Mmh. Le monde avance comme ça, c'est super. Alors, je ne suis pas tout à fait convaincu par les effets. Voilà, ouais. Je pense qu'il faut en discuter quand même. Mais c'est génial. La science, elle est là pour ça. Quoi.
Plus généralement, quand on est auteur de science-fiction, éditeur de science-fiction, est-ce que il est important, est-ce que vous êtes intéressé à l'évolution de l'actualité scientifique ? Vous lisez des revues, vous maintenez au courant de l'évolution des recherches, Olivier Girard ?
Ah oui, clairement, oui, bien sûr. De toute façon, la science, c'est le monde dans lequel on vit, et la SF, c'est le monde dans lequel on pourrait vivre. Donc évidemment, c'est connexe, quoi. Donc nous, on fait plus que ça, parce que nous, au Bélial, on publie aussi une revue qui s'appelle Bifrost, qui abrite une rubrique scientifique depuis 15 ans, tenue par Roland Lehoucq, qui est un astrophysicien.
Qui a été invité ici pour parler du voyage dans le temps il y a peu de temps, qui est le chef des Utopias à Nantes.
Exactement, voilà, tout à fait. Et donc nous, on a une appétence assez aiguë pour la science au Bélial. On publie beaucoup de hard SF. Et pour tout vous dire, nous, on réfléchit même avec Roland à lancer une collection de bouquins sur la science et la science-fiction. Donc nous, on va commencer dans 4 mois, je crois, par rééditer un livre qui s'appelle Faire des sciences avec Star Wars, qui a été écrit par Roland, qui a connu une première édition il y a une douzaine d'années au Pommier, qu'on a enrichi à travers des articles. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, ce bouquin-là, il est issu d'un article qui avait été publié initialement dans Bifrost il y a une quinzaine d'années. C'est un des tout premiers articles parus dans la revue, écrit par Roland. Donc oui, dans la science, c'est très très important, évidemment.
Je disais en présentation de cette émission, j'utilisais cette citation du directeur éditorial de Mnemos: tous les matins, nous nous réveillons avec une actualité qui aurait pu être une nouvelle de science-fiction il y a 30 ans. Catherine Dufour, vous aussi, vous suivez l'actualité scientifique, enfin, je vous dis, ça nourrit votre imaginaire ou...
Oui, c'est carrément la base du métier. Je recommande particulièrement les livres de Roland Lehoucq, notamment au Bélial, où il vous explique que si vous voulez avoir un sabre laser, vous pouvez... Simplement, la poignée, elle sera grosse comme la maison de la radio et ça pose des problèmes en termes de maniabilité. Surtout face à Dark Vador.
Je vous voyais prendre des notes pendant tout le journal des sciences. Qu'est-ce qui vous a intéressé là ?
L'utérus artificiel me plaît énormément. Par contre, que Étienne Klein soit convaincu de plagiat, moi, un mythe s'effondre et je crois que je vais prendre le deuil.
Étienne Klein aura l'occasion de venir se prononcer et répondre à toute cette controverse. Jérôme Vincent, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce que vous avez entendu ?
Moi, j'ai bien aimé Saturne. Parce que je trouve que avoir des photos comme ça, mais je suis toujours très ému par exemple les photos de Mars. C'est quand même assez génial, c'est-à-dire qu'on a d'un seul coup des photos d'un monde qu'on pourra jamais toucher, hein, en tout cas moi, je serai pas dans l'espace, mais je trouve ça très émouvant, ça nous donne une autre vision de nous-mêmes. Enfin voilà, Saturne, ça m'a bien plu.
Puis ouais, dire que bien. De 2000 km de l'atmosphère de la planète, 300 km des anneaux, à l'échelle cosmologique, c'est un cheveu.
C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on vit dans un monde qui a un peu tendance à se rétrécir parfois, et quand on a ça sous les yeux, des images comme ça, des informations telles que celle-ci, tout de suite l'horizon, on respire un peu différemment. Quoi.
Ça vous fait du bien, Catherine Dufour ?
Oui, ça fait du bien, ça vous désolise, oui. Surtout en ce moment.
C'est sûr.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Vous écoutez France Culture, il est 16h17, vendredi, science-fiction dans la méthode scientifique. Dans le tumulte des allées encombrées du salon Livre Paris 2017, a peut-être germé le début d'une petite révolution. Hein, suite à une pétition lancée le 24 mars, 8 maisons d'édition ont signé un appel, et un certain nombre d'auteurs également, l'appel de l'imaginaire, appel qui enjoint toutes les cultures de l'imaginaire à coordonner leur force et leur créativité pour promouvoir leur production, pour se rassembler au mois de novembre, au moment du festival donc Les Utopiales à Nantes, dans des états généraux de l'imaginaire. Cet appel, c'est un peu vous qui en êtes à l'origine, Jérôme Vincent, vous êtes directeur des éditions ActuSF, Catherine Dufour, auteur notamment du guide des métiers pour les petites filles, qu'ils ne veulent pas finir princesse, c'est chez Fayard, on en parlera, hein, dans une grande maison d'édition, mais il faut préciser que vous êtes également publié chez Mnemos, qui est signataire de l'appel avec le goût de l'immortalité qui vous a valu notamment l'un de vos deux grands prix de l'imaginaire, et donc Olivier Girard, directeur des éditions du Bélial, vous l'avez donc tous deux signé. Pourquoi cette pétition, Jérôme Vincent? Alors, puis cet appel, est-ce qu'il y a vraiment péril dans la demeure pour les maisons d'édition de genre, de science-fiction notamment?
Alors, il y a plusieurs choses à dire. Ce qui s'est passé là au début de l'année, c'est qu'on s'est retrouvé pour une autre affaire à 8 éditeurs indépendants autour d'une table, et on a fait tout un tas de constats qu'on partageait sur nos métiers, sur le genre. Hein, on intuite des problèmes en librairie, en visibilité en presse, des problèmes au niveau des institutions, etc. Et ça nous a amené à se dire qu'on allait peut-être faire quelque chose de plus fort, puisque en plus, moi j'ai connaissance d'auteurs qui avaient envie de faire un manifeste pour plus de visibilité dans leur coin. On sait qu'il y a des grands éditeurs poches qui sont en train de préparer des choses de leur côté. 15 jours avant, il y avait des petits éditeurs qui avaient lancé un syndicat national de l'édition des littératures de l'imaginaire. Bref, ça bouillonne de partout. Mmh. Et on se retrouve au niveau de ces réflexions un peu à la confluence de tout ça. Donc on a voulu lancer un appel à des états généraux pour pouvoir réfléchir de manière globale et interprofessionnelle, et vraiment à plat, à la promotion de nos genres et comment est-ce qu'on trouve des solutions un petit peu à toutes ces problématiques. Donc ça, c'est pour un petit peu le mouvement. L'idée véritablement de ce dynamisme-là a été choisie une pétition qui a été mise en ligne. Nous partîmes 8, on est quasiment 1400 maintenant, qui a dépassé un petit peu toutes nos espérances. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et beaucoup d'énergie et beaucoup de gens qui sont venus nous voir en disant bah, « Moi, j'ai des thématiques à porter, moi, j'ai des envies, moi, j'ai des solutions déjà concrètes. » Donc tout ça va s'organiser. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'être à plat et maintenant de travailler tous ensemble, auteurs, éditeur, illustrateur, lecteur, traducteur, correcteur, tous les acteurs du milieu. Comment est-ce qu'on fait? Et puis la deuxième chose sur le constat, c'est que, évidemment, et peut-être qu'on en parlera au niveau chiffres, on est dans une période où, à la fois, il y a des signaux qui sont très positifs pour les genres de l'imaginaire. Nous vivons en plus dans un monde de science-fiction. Et pourtant, il reste des problématiques et des problématiques fortes. Donc, à partir de là, il va falloir agir, faire un état des lieux et trouver des solutions.
Catherine Dufour, donc, c'est une pétition qui a été lancée par des éditeurs. Pourquoi est-ce qu'il est important pour vous, en tant qu'auteur, de signer cette pétition, de vous engager vers ces états généraux?
Eh ben, pour ça, je vais juste citer Michel Houellebecq, qui disait en 2001 qu'il pense avec pitié à ses talentueux collègues qui ont décidé d'écrire dans les littératures de l'imaginaire et se sont donc condamnés, j'ouvre les guillemets, à une obscurité critique radicale, fermez les guillemets.
Ce qui pose extraordinairement bien le problème,
voilà,
surtout de la part de Houellebecq.
Absolument, et après il est allé sortir La possibilité d'une île, qui est de la science-fiction pure, sans l'étiquette, et après il a sorti Soumission, qui est de l'anticipation pure, sans l'étiquette, et il a eu le Goncourt, et ça résume bien la situation.
C'est le problème aujourd'hui, c'est exactement celui-ci, c'est-à-dire que des auteurs comme Michel Houellebecq, on peut en citer d'autres, on peut citer Aurélien Bélanger, on peut citer Boualem Sansal, qui vont publier des récits qui sont des récits de genre, d'anticipation à minima, voire de science-fiction, dans des collections de littérature blanche. Vous vous sentez dépossédé, c'est-à-dire que dès qu'il y a un succès de librairie, il faut qu'on sorte de l'édition.
C'est pas tellement ça, c'est qu'il y a un rôle de découvreur par les éditeurs comme ActuSF et comme Le Bélial. Et après, si jamais ces livres ont un succès fou et qu'ils sont rachetés très cher par une grande maison d'édition, pourquoi pas? Mais par contre, il faut absolument que ces maisons d'édition qui font ce travail de découverte et de défrichage puissent continuer à en vivre. Sinon, on arrivera à un marché du livre noyé sous les Twilight.
Vous-même, par exemple, vous publiez Catherine Dufour, le guide des métiers pour les petites filles qui veulent devenir princesses chez Fayard.
Tout à fait. Je fais partie de ces gens qui ont été rachetés par le grand capital, mais je tiens à dire merci à Olivier Girard du Bélial qui a, je me permets de le préciser, fait paraître un de mes livres, La croissance mathématique du plaisir, où j'ai eu effectivement aussi un grand prix de l'imaginaire, et Jérôme Vincent pour les éditions ActuSF, parce qu'il m'a toujours soutenu, notamment en publiant une de mes nouvelles, Un temps chaud et lourd comme une paire de seins.
Ça veut dire, c'est un titre magnifique, ça veut dire, Olivier Girard, qu'aujourd'hui, le rôle qui est dévolu aux éditions de l'imaginaire, donc aux éditions de science-fiction, de fantasy, d'être des révélateurs de talents avant d'être dépossédés de leurs auteurs qui vont fonctionner pour le grand public et dans des collections blanches?
J'ai pas ce sentiment-là. Moi, après, c'est vrai que le phénomène qu'on pointe un petit peu, enfin, d'auteurs de genre entre guillemets qui publient chez des éditeurs mainstream, c'est pas nouveau. C'est vrai que peut-être que ça s'accroît un petit peu. Ce qui est sûr, c'est que à qualité égale, la réception n'est pas la même. Donc le problème, il est là, tout simplement, quoi. Après, en termes de marketing, évidemment, on n'a pas les mêmes outils. En revanche, maintenant, ce qui a énormément changé dans le paysage éditorial, c'est que question diffusion. Je pense que aussi bien ActuSF que Le Bélial, que Fayard, qui est diffusé par Hachette, je crois. Enfin, nous, nos livres, on peut les trouver à peu près partout. Enfin, bon, le travail est bien fait. Maintenant, il y a un autre problème qui, lui, en revanche, me semble beaucoup plus contemporain. C'est une question générationnelle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, nous, on est tous plus ou moins quarantenaires autour de cette table. Et donc, on a grandi en lisant plus ou moins les mêmes choses. On est le produit de la une espèce de pop culture qui s'est un petit peu répandue partout. Quoi.
On a tous lu l'âge d'or de la SF. Voilà. On a grandi avec Asimov, Herbert,
exactement,
et consorts, Moorcock.
Tout à fait. Et donc maintenant, on est tous un peu entre guillemets aux commandes. Enfin, c'est-à-dire qu'on est installé, on publie, on écrit, on critique, voilà quoi. Et c'est évidemment le cas des auteurs aussi. Et c'est il y a énormément d'auteurs qui aujourd'hui font de la SF sans que ça, enfin qui font de la littérature blanche en intégrant des éléments de science-fiction. Mmh. Ça c'est plutôt nouveau en revanche. Je pense à des auteurs comme là j'en ai listé quelques-uns, David Mitchell, Michael Cabon, Karen Russell, c'est ce genre d'auteurs-là. Et c'est voilà, moi la question c'est moi c'est une vraie problématique parce qu'il y a des auteurs parmi ces gens-là qui m'intéressent énormément. Sauf que en revanche là moi je peux pas leur offrir cette chance là en termes d'exposition, là c'est sûr que je peux pas lutter. Donc moi quand je publie des auteurs comme Darrell Gregory, Greg Egan, qui sont des Lucius Shepard, qui sont des auteurs un petit peu à la croisée de tout ça, comme les auteurs que je viens de citer, Karen Russell, Chalma Michel, Victor Laval, etc., ça me pose un vrai souci. Enfin nous on est sous le radar et là il faut faire quelque chose quoi. Après notre talent de découvreur en tant qu'éditeur indépendant, enfin en tant éditeur tout court.
Éditeur tout, oui, oui, voilà.
C'est l'essence du métier, quoi.
Parce que ce problème-là, hein, parce qu'on sait que l'édition de science-fiction, historiquement, c'est une édition de niche, et qui a toujours lutté pour essayer d'en sortir et qui a toujours eu du mal à s'en extraire, malgré néanmoins le succès grandissant de la science-fiction, par ailleurs, dans d'autres secteurs de la production culturelle, le cinéma, récemment, les séries télévisées. J'aimerais que, avant qu'on fasse la comparaison ou le distinguo, je ne sais pas ce qu'il faut dire, qu'on fasse un petit tour tout de même de l'état de l'édition de l'imaginaire. Hein. J'ai des chiffres. Alors j'ai des chiffres qui datent de 2014. Vous l'avez me corriger si vous en êtes des plus récents. 2014, moins 16,6% de ventes hein, pour les éditeurs spécialisés. Deux tiers des ventes, c'est deux tiers des ventes. Alors attendez, oui, c'est deux tiers des ventes en poche, pardon. La moitié, c'est de la fantasy. Un tiers seulement, 31% de la SF et 23% du fantastique. Tout ça pour remettre ça dans un contexte un peu plus général. SF, terreur, fantasy, merveilleux, 4%, à peine 4% des ventes en littérature générale. Et pour redire un mot sur la répartition des maisons d'édition, il y a d'un côté, là aussi, il y a deux régimes très distincts, hein, enfin, qui se voient tout à fait sur les ventes. Il y a d'un côté Madrigal, c'est-à-dire Gallimard Flammarion, qui fait 30% de part de marché, Bragelonne 21%, et le premier éditeur indépendant, c'est l'Atalante, avec 3,1%. Mnemos est à 0,8%. Ça veut dire qu'au sein même de l'édition de la SF, il y a un double régime. Jérôme Vincent ?
Ah oui, vous avez les acteurs historiques un petit peu qui sont Flammarion et puis les grands groupes au niveau poche, hein, Pocket, le livre de poche. Et puis par contre,
j'ai lu
évidemment. Par contre, sont apparus sur les 20 dernières années des structures qui n'existaient pas, des structures indépendantes. Hein, c'est Mnemos, le Bélial, le Diable Vauvert, la Talente. Ils sont un peu plus vieux la Talente. Ils
ont... Je pense qu'il y a 30 ans, les éditeurs indépendants en littérature de genre simplement, ça n'existait pas du tout. Il n'y en avait pas.
Ouais, c'est clair.
C'est vrai qu'on fait pas beaucoup, mais
sur les chiffres, on a à peu près les mêmes. On est plutôt à 7% de part de marché.
D'accord. Hein, c'est pas rien, parce que de 4 à 7, c'est quasiment du simple double.
Voilà, c'est ça. Donc bon, après, alors c'est toute l'idée un petit peu de ces états généraux, de pouvoir faire un véritable état des lieux. Parce qu'en fait, on se base notamment sur des chiffres Livre Hebdo, qui font un dossier tous les ans, des chiffres GFK, mais on ne sait pas exactement ce qu'englobent tous ces chiffres. Est-ce que les auteurs qui publient de la SF dans des collections de littérature blanche sont dedans ? Est-ce que le young adult ou le secteur jeunesse, qui est très dynamique, est-ce qu'ils sont dedans ou pas ? Qu'est-ce que ça regroupe ? Donc, on se base sur quelque chose dont on n'a pas tout à fait les limites, et ça, c'est un petit peu embêtant.
Et c'est l'une des ambitions de ces états généraux. Quelles sont les autres ambitions ? Dites-nous un peu ce que vous souhaitez obtenir, ce que vous allez faire donc aux Utopiales au mois de novembre.
L'idée, dans un premier temps, là, c'est de travailler vraiment sur un état des lieux, quoi. Savoir véritablement ce qui s'est passé. C'est la méthode scientifique. Hein. Nous avons des hypothèses et des ressentis. Il va falloir maintenant les confronter avec des chiffres. On a l'impression que, effectivement, on manque de visibilité en presse. Allons compter dans le journal Le Monde, le nombre d'articles liés à l'imaginaire, et puis on saura si ça fait 4 ou 7% ou si ça fait 1%, et à partir de ce moment-là, on pourra dire, nous sommes sous-représentés.
Vous devriez compter les émissions de radio, hein. Il y en a une qui s'intéresse à la science-fiction tous les 15 jours.
Par exemple, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être on va trouver des choses qui vont, à contrario, nos ressentis. C'est-à-dire que moi, je serais ravi de me rendre compte finalement, en presse, on n'est pas si mal que ça, etc.
Enfin, ça, je serais assez surpris quand même, quoi.
Ouais, mais il n'empêche.
Mais oui, c'est possible.
Comptons, faisons ce boulot, il n'a jamais été.
Absolument,
et on comptera tout le monde, y compris Houellebecq, quand il fait de la SF.
Complètement, mais aussi, quels sont les auteurs qui sont invités ? parce que est-ce que ce sont plutôt des Houellebecq qui sont pas tout à fait dans notre champ de vision, c'est-à-dire est-ce que ce sont des auteurs hors genre, est-ce que ce sont des auteurs de genre mais toujours les mêmes, quelle est la diversité là-dedans? Donc état des lieux des chiffres de vente également. Mmh. On a des maisons d'édition à date égale qui peuvent nous dire pour un bouquin donné ce qui se passait il y a 20 ans, ce qui se passait aujourd'hui. Deuxièmement, sur différentes problématiques en termes de visibilité, travaillons par groupe de réflexion, auteurs, éditeurs, etc., sur comment améliorer la promotion, la visibilité des genres en librairie, comment améliorer en presse. Voilà. On arrive aux états généraux, on a des chiffres, des propositions. Et à partir de ce moment-là, tout commence. Mmh. À nous d'embrayer.
Mmh. Un mot rapide à propos des librairies. C'est le Stéphane Marsan, qui est le directeur éditorial de Bragelonne, qui regrettait que, effectivement, si les parts de marché de l'imaginaire représentent 7% de la fiction, leur exposition ne soit pas proportionnelle en librairie. Vous avez encore l'impression aujourd'hui que les genres de l'imaginaire sont maltraités, que les rayons de l'imaginaire sont à part, sont pas aussi exposés que précisément les ventes qu'ils font, Olivier Girard?
Moi, j'ai pas ce sentiment-là nécessairement. D'ailleurs, Stéphane et Bragelonne, dans leur ensemble, ont fait beaucoup pour améliorer ça, parce que c'est vrai qu'il y a une production très très importante et des ventes soutenues. Ils ont concouru au développement des rayons spécialisés en librairie. Le problème de la littérature de genre, à mon sens, d'une manière générale, c'est qu'elle a toujours besoin de champions. Et c'est un petit peu restrictif. C'est-à-dire que dans une librairie, s'il y a un libraire qui est passionné par le truc, on va lui dire très très bien, tu t'en occupes et super. Donc, ce qui est déjà en soi presque une marginalisation quand même. Hein. On a la perle rare sous la main, il va faire le boulot. Et le problème, c'est que quand celui qui fait le boulot s'en va, il n'y a plus personne. Mmh. Et c'est dans les médias, c'est un petit peu ça aussi. Hein. Depuis longtemps, il y a des gens qui nous soutiennent, il y a des gens que ça intéresse, notre travail intéresse. Donc, ils font le travail. Et je pense à Jacques Baudou, par exemple, pendant des années au Monde. Le jour où l'intéressé s'en va, c'est compliqué. Et moi, j'ai le sentiment qu'en librairie, c'est la même chose. Moi, j'ai été libraire FNAC pendant longtemps. C'est vrai que voilà, moi, évidemment, je connaissais bien le domaine, je m'en occupais, ça allait. Le jour où je m'en suis plus occupé, c'était plus compliqué. Donc, il y a un vrai travail de formation, ça c'est sûr, et un travail de décloisonnement. Et puis, juste pour en revenir sur deux secondes sur la problématique que vous souleviez quant au sentiment d'être éventuellement dépossédé. Mmh. Quand des auteurs qui écrivent vraiment réellement de la science-fiction. Alors là, je parle pas des choses un petit peu croisées, etc. Je sais pas, je pense à Haddad, Antoine Bello, ou Le mur de Planck de Christophe Carpentier chez POL, qui est sorti il y a peu de temps, quoi. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on parle, j'ai pas la réponse, mais il faudrait regarder les chiffres de vente, très franchement, quoi. Mmh. Et je suis pas certain que ça soit particulièrement florissant. Je suis pas certain que Rêve de machine de Louisa Hall, qui est paru dans Du Monde entier chez Gallimard, se vendent à 200 000 exemplaires. Je le souhaite, hein, évidemment. Hein. Et y a aucune dépossession, hein, moi, dans ce constat-là. Moi, je suis ravi qu'il y ait des bouquins de pure SF qui sortent chez des éditeurs ou dans des collections qui, il y a encore 10 ans, nous regardaient un petit peu de haut. Donc, quelque part, c'est quand même une reconnaissance, c'est très très bien. Après, c'est à nous de faire notre boulot, publier des bons textes et de les défendre comme ils doivent être défendus. Quoi.
Pour rester encore quelques minutes dans le secteur de l'édition, avant de parler de la nature, de la matière que vous publiez, de ce qu'est aujourd'hui le panorama de la science-fiction en 2017. Pour ce qui est des petites maisons d'édition spécialisées, l'horizon est assez sombre. Hein. Les éditions du Rion ont mis la clé sous la porte juste là au début de l'année. L'année dernière, c'est les Faïs, Mythologica, Griffe d'encre, conversion numérique, la Bourdonnais. C'est aujourd'hui compliqué. Ouais. C'est non. Enfin, allez-y, non, Jean-Vincent.
Simplement. Donc, il faut comprendre que pour ces éditeurs-là, il y a eu un problème structurel avec un diffuseur-distributeur qui a mis la clé sous la porte, qui s'appelait Locomodo, et qui du coup, dans son sillage,
qui a planté un peu tout le monde.
Voilà, qui a planté un peu tout le monde. Tu peux en parler. T'as vécu ça il y a longtemps. Donc, il y a effectivement des maisons d'édition qui disparaissent. Effectivement, il y a une fragilité. Néanmoins, c'est ce qu'on se dit tous autour de la table. C'est-à-dire que si on parle de chiffres, si on parle de livres hebdo, on a perdu quand même pas mal de ventre pour le genre. Mais nous, ça se passe plutôt bien, on est plutôt en progression. Et on compense par du dynamisme, par des initiatives, par des nouvelles collections, par du job.
Il y a de nouveaux éditeurs qui arrivent. Ouais. C'est la vie de l'édition. Moi, je pense que ça.
Il y a une nouvelle Lynx qui va arriver là. Ouverture en mai. Est-ce qu'il y a encore de la place pour des maisons d'édition spécialisées?
Bien sûr, mais de toute façon, je suis convaincu que restera les gens qui font du bon boulot. C'est aussi bête que ça, quoi. Il y a Je pense que il y a de la place pour les gens de talent, c'est tout.
Mmh. Oui, là je peux.
Catherine Dufault, une question. Quand on est auteur de genre, quand on est auteur de SF, de l'imaginaire, je suis. Alors c'est peut-être moi, j'ai du mal avec de l'imaginaire. Je j'aime pas beaucoup cette espèce de chapeau général parce que à l'intérieur ça recoupe des genres qui sont vraiment tout de même très très distincts. Quelle a été votre démarche, vous, d'édition au départ, à qui vous êtes adressé, comment est-ce que vous êtes arrivé à ces maisons-là, et est-ce que c'était important pour vous d'être publié d'abord dans des maisons d'édition spécialisées?
Oui, ça a été primordial. Moi, j'ai envoyé mon premier manuscrit à une maison d'édition justement de fantasy, Nesty Vednen, qui est vraiment l'archétype de la maison d'édition, qui fait un vrai travail de défrichage, et qui là peine vraiment à sortir du gouffre, dû à la difficulté du paysage éditorial. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré les gens de Mnemos, et puis j'ai rencontré Olivier Gérard du Bélial, et puis j'ai rencontré Jérôme Vincent d'ActuSF. Et je peux témoigner que d'abord, c'est un milieu qui est extrêmement agréable, peut-être, parce que c'est un milieu qui gagne pas encore trop d'argent.
Il suffit d'aller aux Utopiales pour s'en rendre compte. Un peu, je dis à tous nos éditeurs, aller aux Imaginales, enfin, dans les grands festivals de science-fiction, festivals avec une ambiance littéraire très surprenante et très différente des salons du livre traditionnels.
80 000 visiteurs sur les Utopiales, plus que le Salon du Livre cette année.
C'est extrêmement intéressant en plus parce qu'il y a de plus en plus de gens scientifiques, comme vous, on est invités dans votre émission. Il y a de plus en plus de scientifiques qui se mêlent aux écrivains de science-fiction quand c'est pas carrément les mêmes personnes. Mais je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'Olivier Girard, quelle que soit l'heure du jour, de la nuit ou de la semaine, vous l'appelez au téléphone, de toute façon, il est en bouclage. Voilà. Je pense qu'on s'en sort quand on travaille juste tout le temps.
C'est à cause de Bifrost. Aussi.
Mais ça fait pas 2 ans, quoi. Ça fait 15 ans. J'attends le moment où il va mourir de fatigue, il ne meurt pas.
Il a perdu ses cheveux, en revanche.
Un mot tout de même aussi, parce que, mine de rien, sur les maisons d'édition que vous représentez, on est sur des budgets, on va le dire, et vous allez le confirmer ou l'infirmer, sur des budgets d'édition qui sont des budgets relativement restreints. J'en prends par exemple, Jérôme Vincent, cette monographie magnifique que vous m'avez apportée, parce que j'y ai contribué sur Internet, qui est une monographie sur Lovecraft, qui s'appelle Au cœur du cauchemar, que vous venez de publier. Vous avez eu besoin d'avoir recours au financement participatif, au crowdfunding. Ça veut dire que aujourd'hui, pour réussir à boucler des projets éditoriaux ambitieux, vous avez besoin d'apports financiers extérieurs.
Ouais, ça permet. Le crowdfunding, c'est une autre manière de faire de l'édition. Ça pose plein de questions. D'ailleurs, on en discute beaucoup ensemble. Ce qui est sûr, c'est que ça nous a permis, de faire un livre en termes de contenu et qui correspondait à ce qu'on souhaitait, et puis aussi en termes d'objets livres. Il est clair que nous n'aurions pas pu le rentabiliser simplement en librairie, et que donc cet apport du crowdfunding permet de financer des objets qui sont un petit peu différents, des livres qui sont un petit peu différents, et qui en plus c'est un recueil d'essais et d'articles, donc c'est pas le plus sexy à vendre quand même.
On peut donner quelques chiffres sur l'argent que vous avez pu collecter, que vous avez mis sur la répartition financière ou le projet financier.
Globalement, c'est un livre qui coûte tout compris à peu près 30 000 euros. Mmh. Le crowdfunding nous a permis de récupérer 25 000 euros, donc il n'y avait plus que 5 000 euros à financer. Le crowdfunding a permis aussi de mieux payer les gens qui ont écrit et qui ont traduit et qui ont participé donc à la création, et ça a touché à peu près 720 personnes, 750. Plus ou moins 740, j'en sais rien.
Donc plus sa vie en librairie.
Plus maintenant sa vie en librairie. Mais il est clair que à 30 000 euros, pour l'instant, pour ma structure, c'est pas un projet que nous aurions pu porter sur le cycle traditionnel de l'édition.
Olivier Gérard, sur cette question du financement participatif.
Oui, ça
peut être un horizon pour le Bélial aussi.
Ah, on l'a déjà fait. Mmh. On a publié un bouquin qui s'appelle Gotland, qui est aussi un hardbook sur lequel
j'ai participé aussi. Je suis une victime. J'ai de les publicités. C'était ciblé sur Internet, il faut m'éloigner. C'est un cauchemar, oui.
Donc un livre sur lequel,
de Thomas Day
et de Nicolas Fructus, voilà.
Qui est aussi un excellent livre et qui est aussi Lovecraftien, décidément.
Absolument, ouais. Tout
Lovecraft,
c'est un livre d'art, voilà. Donc non, ça permet de faire des projets. D'abord, ça permet de se faire plaisir, parce que c'est vrai que je pense que Jérôme, c'est pareil. Enfin, quand moi je vois le Lovecraft dont vous parlez, qu'a publié Jérôme, c'est des bouquins pour lesquels on fait ce métier. Enfin, moi, quand j'étais gamin, quand je me disais je vais faire de l'édition, c'était pour publier des livres comme ça, comme Gotland, voilà, des très très grands formats reliés, tout en couleurs. Nous, on a des pages qui se déplient. Enfin, vous avez vu le bouquin, voilà. Magnifique. Donc, et puis avec un travail d'impression. Enfin, on va au cul des machines, on travaille avec les gens qui font le livre, et c'est vraiment passionnant. ça coûte beaucoup d'argent, c'est certain. Donc il est vrai que sans ce biais-là, on ne peut pas faire ces livres-là. Moi, en revanche, ma réserve, c'est que en ce qui me concerne en tant qu'éditeur, moi, je limite ce type d'apport sur ce genre de projet. Je pense que ça doit être limité à des projets qu'on ne pourrait pas financer sans ça, uniquement. Ça. Parce que moi, quand même, le truc, c'est quand même la librairie. C'est là que ça se passe. C'est là que les choses se font, de mon point de vue. Mmh. Et on peut le dire comme on veut, mais c'est sûr que nous, quand effectivement on lève une somme d'argent, donc nous sur Gotland c'était 42 000 euros, pareil sur 800 personnes, c'est quand même 800 personnes qui n'achètent pas un livre en librairie. Donc il faut être prudent avec ça. C'est une opportunité formidable pour des projets spécifiques dédiés.
Avec un public qui est un public extrêmement captif. Absolument, de ce genre sûr. De projet en science-fiction, il faut aussi le dire, c'est-à-dire que vous avez la chance pour le coup d'avoir des gens qui sont des gens extrêmement connectés, qui sont extrêmement sensibles à ces problématiques-là et qui sont extrêmement volontaires dans le financement participatif.
Bien sûr.
Ouais, mais c'est incroyable, hein, d'un seul coup mobiliser 750, 800, 1200 pour nos copains de Mnemos là sur Clark Ashton Smith, sur des projets qui sont quand même des projets passionnants, mais quand même très très compliqués en termes éditoriaux. Éditoriaux, c'est extraordinaire, c'est génial. Bon, si on rajoute un zéro, ce sera cool.
Désolé de jouer le rabat-joie ou l'oiseau de mauvais augure, mais est-ce que c'est pas tout de même un peu une faillite aujourd'hui de se dire que pour réussir à faire correctement à éditer les projets qui sont vos projets de rêve, il faut avoir recours à l'argent des lecteurs et de vos publics.
C'est les appels à souscription, ça existe depuis très très longtemps. Le CLA faisait ça. Les gens s'abonnent à Bifrost, c'est un petit peu pareil. Enfin, sans les abonnés de Bifrost, la revue n'existerait pas. Pour moi, c'est un petit peu le même principe. Hein. Après, encore une fois, je vous dis, il faut être vigilant et à mon sens, ça doit être dédié à des projets très spécifiques.
Catherine Dufour, votre avis sur cette question?
Oui, je pense qu'effectivement, ça doit être limité à ces livres superbes, parce que là, on pourrait enchaîner sur le malaise des librairies qui est, juste catastrophique, puisqu'elles ferment en rafale et que tout ce qui nous restera pour nous conseiller désormais, ça sera l'intelligence artificielle d'Amazon. Mmh. Et là, on n'en voit pas le bout des fermetures en cascade des librairies.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
This is a low flying panic attack.
Brûler la sorcière, Burn the Witch de Radiohead, c'est le choix musical de notre réalisatrice du jour, Elisabeth Miro. Il est déjà 16h45, le temps passe à une vitesse inouïe quand on parle de science-fiction, mais quand on parle de science tout court. Vous pouvez évidemment toujours nous suivre sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. On parle donc de science-fiction et de l'édition en science-fiction avec Jérôme Vincent d'ActuSF, Catherine Dufour qui est romancière et Olivier Girard du Bélial. Il nous reste un petit quart d'heure pour parler un peu de votre cœur de métier à vous, éditeurs et auteurs, à savoir la production d'imaginaire. Hein, pendant longtemps, ce sont les revues qui ont fait office un peu de comité de lecture, on le disait, ou de sélection des auteurs. On voit que aujourd'hui, ce sont effectivement les maisons d'édition spécialisées qui le font. Il y a plusieurs questions qui se posent aujourd'hui sur l'imaginaire de science-fiction contemporain. Le premier sera à l'adresse de mes camarades éditeurs ici présents. Est-ce que vous recevez aujourd'hui beaucoup de manuscrits français et quelle est la part de la sélection que vous faites entre de la publication de nouveaux auteurs, donc d'auteurs émergents français, et de traductions? Olivier Girard, vous qui publiez Ken Liu par exemple.
Donc nous on reçoit entre 450 et 600 manuscrits par an, à peu près. Alors ça fait beaucoup, mais sur ce chiffre-là, il y a aussi des nouvelles, des textes courts, parce qu'on publie pas mal de nouvelles, notamment dans la revue Bifrost. Donc c'est un énorme boulot qu'on peine à mener à bien, parce que c'est beaucoup, beaucoup de temps, et en même temps c'est le cœur de notre boulot. La part, elle est, en termes de publication, enfin en question ratio reçu publié, c'est infinitésimal, quoi. Moi je crois que en 20 ans d'édition, on a dû publier peut-être 4 manuscrits reçus par la poste. Voilà. Alors, c'est spécifique peut-être aussi au Bélial, hein. Attention, moi, ça ne fait pas une règle.
Alors, on va demander, on va demander
à Jérôme traduction aussi, donc, voilà.
Ouais, nous, on reçoit à peu près 400 manuscrits par an, hein, non sollicités. Parce qu'il y a tous les manuscrits des auteurs avec qui on travaille ou avec qui on a envie de travailler. On publie 1 à 2 manuscrits arrivés par la poste comme ça par an, c'est déjà beaucoup, hein, sur une production d'une dizaine de grands formats inédits par an. Voilà, c'est structurellement effectivement c'est une horreur parce qu'il faut traiter 400 manuscrits qui arrivent, mais c'est quand même la preuve d'une vraie vivacité, quoi, d'un véritable dynamisme, hein. Là-dessus ça roule. Plus nous on fait aussi pas mal de veille maintenant sur tout ce qui est publication en ligne et plateformes de publication type Wattpad. On fait beaucoup, on en fait pas mal.
Et sur le ratio auteur francophone traduction,
on va avoir 1 à 2 traductions par an à peu près d'auteurs étrangers, que ce soit en science-fiction, en fantasy, ça dépend véritablement. Le reste se distribue entre francophones et puis des essais, des études, des guides.
Catherine Dufour, je voulais prendre des notes. Qu'est-ce que vous notez?
Si c'est pas bon sang, 3 à 4 manuscrits par an sur 400, mon Dieu, qu'est-ce que vous avez pu lire comme manuscrit inutilement, ça, c'est un vertige.
Pour vous, auteur, vous avez l'impression d'avoir... Comment est-ce que ça s'est passé, Catherine Dufour, par cooptation? Vous avez l'impression d'être passé à travers les mailles du filet? Est-ce que ça, vous diriez que c'est plus dur pour un jeune auteur aujourd'hui de réussir à avoir accès à la publication que ça ne l'a été pour vous au moment de vos premières publications?
Non, des clous. Moi, mon premier manuscrit envoyé par la poste, accepté. Ensuite, donc ça, c'était de la fantasy. Après, du coup, j'ai rencontré la SF. Et c'est carrément Audrey Petit qui était chez Mnemos à l'époque, et au livre de poche maintenant, qui m'a dit « Tu m'écris un bouquin de science-fiction ?» Il y a Olivier et Jérôme qui ont aussi beaucoup cru en moi. Et au bout de 10 ans, je me suis dit que j'allais faire autrement. J'ai écrit un livre de littérature générale qui s'appelait « L'histoire de France » pour ceux qui n'aiment pas ça. Et je recommençais à les envoyer par la poste parce que je voulais pas me servir de la notoriété acquise dans un domaine. Je voulais voir
parce que ça aurait été un handicap.
Non, parce que je voulais voir ce que je valais. Voilà. Tous les 10 ans, il faut se remettre comme ça en danger. Puis ça a marché, ça a été accepté chez Faya. Voilà. Mais c'est ma méthode, je la recommande à personne, elle est valable pour moi.
Vous diriez aujourd'hui, Catherine Dufour, que l'imaginaire de la science-fiction, si tant est qu'on puisse le définir, est sensible à la technologisation de la société, que c'est plus difficile de faire de la science-fiction dans une société hyper technologique, hyper spécialisée, que ça n'a pu l'être pour les pères de la SF des années 60?
Ah non, et je crois qu'ils étaient encore plus marginalisés à l'époque.
Non, mais dans l'imaginaire, je veux dire, dans la production d'imaginaire, est-ce que c'était plus facile de se projeter dans les années 60 dans un futur que ça ne l'est aujourd'hui, alors que le futur est déjà en train d'advenir?
Vous avez 2 heures.
C'est parti.
Bon, Léo Henry a dit très justement, ça va tout résumer, la science-fiction est en train de se prendre le mur du réel dans la face, la singularité, on y arrive, et on a de plus en plus de mal à trouver un nouveau paradigme, comme Orwell a réussi, comme Le meilleur des mondes l'a réussi. Nous, on tourne là autour du transhumanisme, autour des intelligences artificielles.
Beaucoup de l'écologie aussi, hein. Voilà, ça pose beaucoup de l'environnement, de l'apocalypse environnementale.
Voilà, je cherche la personne, veut dire Werner Winch, qui était vachement novateur, et ben c'est plus ça. Et là, c'est Galupi, qui a plein d'idées.
Waterknife, qu'on a reçu ici d'ailleurs.
Voilà, on tourne autour du même piquet et j'attends le génie, j'attends le nouveau Kadic. Mais je me demande si c'est pas tout simplement le réel qui s'est mis à accélérer tellement qu'on n'arrive juste plus à aller aussi vite que notre propre science.
Est-ce que le nouveau Kadic s'est déjà pris le mur du réel dans la face, comme le dit Catherine Dufour?
Moi, je pense que le nouveau Kadic, j'en ai quelques-uns en tête.
Par exemple
Can You, par exemple.
Robert Charles Wilson.
Robert Charles Wilson, Ada Palmer, qu'on ne connaît pas encore en France, mais qu'on connaîtra bientôt au Bélial. Enfin, voilà, je pense qu'il y a plein d'auteurs de talent. Maintenant, écrire de la SF, c'est vrai que c'est compliqué. Ça sous-entend un pool de connaissances important. Enfin, ça dépend ce qu'on veut faire en science-fiction, j'entends, hein, mais... La SF qu'on aime, c'est-à-dire celle qui nous fait mettre un petit pas de côté et qui nous ouvre des perspectives un peu inédites, c'est compliqué à écrire. Oui, c'est beaucoup de travail. Et puis c'est beaucoup de travail de ne pas nous dépeindre systématiquement un futur plombant aussi, surtout en ce moment.
De la SF positiviste,
sans qu'elle soit béate, mais voilà, c'est ça. Enfin,
c'est le deuxième problème.
Un petit peu,
Catherine Dufour, c'est le deuxième problème.
oui, c'est bon. Là, ça c'est narratif. C'est-à-dire si vous écrivez une utopie. Et que tout le monde va très bien, les gens héros n'ont pas d'histoire et donc votre livre il est juste nul quoi.
un mot pourquoi pas, enfin en même temps il suffit d'écouter un journal d'actualité pour avoir à peu près le même sentiment. Jérôme, Vincent ou Olivier Girard d'ailleurs, vous qui avez un peu un regard transversal sur les manuscrits que vous recevez, on parle aujourd'hui paradoxalement de deux retours, en tout cas de deux tendances de force dans les sous-genres de la SF. Il y a la hard science d'un côté, type Wilson, et il y a le retour du space opéra. On a eu Romain Lucaso ici, space opéra qu'on pensait être un genre un peu mort et enterré depuis la fin des années 70, qui reprend un peu du poil de la bête. On retrouve un imaginaire un peu intergalactique. Vous y croyez pas trop?
Alors moi je suis un peu dubitatif là-dessus, mais ce que fait Romain est très bien et si ça marche, tant mieux. La problématique c'est qu'on dit des choses et puis il y a toujours un contre-exemple. Mais dans les années 2000, hein, on se souvient que par exemple le retour du space opéra en force, hein, avec Serge Lehmann notamment,
Laurent Genefort,
le NSO, et puis ça fait pouf. Puis ça remonte un petit peu. Pour en éditer un petit peu avec Jean-Marc Ligny, c'est pas des ventes extraordinaires. Mais après, c'est toujours je suis pas sûr que... Enfin, ce sont des mouvements de fond. Je suis pas sûr. Je les appellerai pas des mouvements de fond. C'est à un moment, il y a un bouquin comme Romain. Qui monte.
Lucaso, Latium.
Voilà, ou comme Laurent Genefort, d'un seul coup, qui revient avec une idée, un truc, et puis...
Omal, c'est de Noël aussi.
Mais je dirais pas que c'est un mouvement, très clairement.
Quel est aujourd'hui le bruit de fond de l'imaginaire de science-fiction des auteurs que vous publiez, qui vous intéresse,
en tout cas? Moi, je trouve qu'il est très, très diversifié. C'est-à-dire que quand on publie Superposition de Walton, qui est un bouquin sur la physique quantique appliquée à notre monde réel, on a un bouquin de Hard Science, mais qui est plus un thriller, et qui joue véritablement avec la science à ce moment-là. Je vois pas de mouvement de fond, je vois beaucoup de diversité dans ce qui est publié, en mettant de côté toute la dystopie dans la littérature young adulte, qui là était pour le coup, vraiment une grosse production.
Littérature young adulte qui demanderait une émission à elle-même, parce qu'elle est un peu dissociée des littératures de l'imaginaire, alors que c'est des cartons en librairie et que ça ne ruisselle pas tellement sur les littératures et sur les boîtes d'édition de SF. Olivier Girard, sur ce bruit de fond de la SF, vous partagez le point de vue de Jérôme Vincent?
Oui, je le partage. Alors c'est vrai qu'il y a même au-delà du young adulte, hein, il y a beaucoup de textes post-apo. Ça commence avec La Route de Cormac
Post-apocalyptique.
Oui, post-apocalyptique, c'est un peu le problème aussi des littératures de genre, c'est-à-dire qu'il y a un succès dans un secteur lambda et ça va s'engouffrer
France spécifiquement, il y a eu la Horde du contre
de Damasio, absolument. On va vous mettre sur le fil Twitter cet entretien assez génial qu'on a eu avec Damasio à la fin de l'année dernière. C'est quand même ce qu'on appelle dans le métier un client merveilleux, et on lui a ouvert la porte, il revient quand il veut, il est en train d'écrire son nouveau roman, son éditeur l'a enfermé chez lui. un mot pour conclure, c'est ça. Un mot pour conclure, avant de nous dire un peu, de vous donner un œil de vos calendriers de publication les uns les autres, est-ce que vous avez l'impression, ce sera ma question finale, que finalement, en quelque sorte, la science aujourd'hui est devenue trop compliquée pour la science-fiction, Catherine Dufour?
Non, pas du tout, il n'y a que des auteurs qui vieillissent.
Non, mais la science, ce que je veux dire, c'est que la science actuelle, l'extrême technologisation, l'extrême spécialisation des sciences, des domaines scientifiques, de la physique fondamentale, que tout ça est devenu presque trop compliqué à appréhender pour la science-fiction.
Non, je crois pas, parce que c'est la raison d'être de la science-fiction, c'est de cette espèce de travail de vulgarisation qui permet aux lecteurs comme vous et moi de voir à quelle sauce les laboratoires vont nous manger demain. Donc, non seulement je pense pas que ce soit trop compliqué, mais de toute façon, même si c'est trop compliqué, faut se débrouiller pour le simplifier. Voilà. Ouais, c'est notre travail.
Il faut écouter la méthode scientifique pour bien tout comprendre à la physique quantique.
On l'a dit en commençant, la science nous offre des images de Saturne. Quel matériau merveilleux pour les auteurs.
Mais est-ce que c'est pas trop réel? Est-ce que c'est pas devenu trop réel?
En fait, je suis pas sûr. La science-fiction, c'est aussi raconter des histoires. Et à partir du moment où on a des grains pour alimenter l'imaginaire des auteurs, on aura des manuscrits et on aura des textes. C'est pas un gros souci. La seule chose, c'est qu'effectivement, un voyage spatial aujourd'hui, on l'écrit plus comme on l'écrivait il y a 30 ans, parce que les technologies ont évolué, tout simplement, quoi. Mais la science, au contraire, là, je parle de hard science avec superposition, mais il y a tout un tas de domaines où, bien au contraire, ça peut être une merveilleuse source d'inspiration, quoi.
Olivier Gérard, sur cette question.
Oui, non, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Après, c'est vrai que la RDSF, on ne publie pas que ça, mais il se trouve qu'à titre personnel, c'est ce qui me passionne. Donc je regarde énormément ce qui sort, ce qui se fait. Ce que je constate, c'est que généralement, les auteurs de ce type de littérature sont eux-mêmes des scientifiques. Je pense, à Peter Watts, Werner Vinge, Geoffrey Landis,
etc. Ça ne veut pas dire, Asimov, rappelons-le, était scientifique.
Exactement.
Hein.
Donc oui, encore une fois, ça sous-entend une culture scientifique un petit peu charpentée. Et puis surtout, une capacité à faire un pas de côté. Enfin voilà, c'est vraiment le cercle du poète des poètes disparus quand on monte sur la table et on regarde le monde différemment. Pour moi, la science-fiction, c'est ça. Et a fortiori, la RDSF, c'est au capitaine, mon capitaine, voyons les choses autrement. Quoi. Et tout est possible.
Pour conclure cette table ronde passionnante sur l'état de la science-fiction, j'aimerais que vous me donniez évidemment un peu un regard sur un auteur ou deux dans vos publications en cours ou à venir sur lesquels vous voudriez attirer l'attention des auditeurs, et exercice difficile, un auteur en dehors de vos collections. Olivier Gérard, pour commencer.
Moi sur les auteurs qu'on sort là, on sort un roman d'un auteur français qui s'appelle Thierry Dirolo, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui est un auteur qu'il faut pousser, qui est voilà. Et puis on sort le nouveau roman de Canyou, donc voilà, enfin ça c'est notre actualité.
On a reçu ici grâce à vous au mois de pour les Utopiales, au mois de novembre. Il est venu de retour des Utopiales ici.
En dehors
du Bélial,
un auteur que vous adorez, Lucaso, effectivement, enfin
Romain Lucaso, Latium, chez De Noël, formidable œuvre, deux volumes de Space Opéra. Jérôme Vincent.
Moi, je vais publier un petit bouquin de poche qui s'appelle Crime, Alien et Châtiment. Les extraterrestres ont débarqué. Ils ont mis tous les auteurs de science-fiction au chômage. Et il y en a trois qui sont devenus détectives privés pour Alien. Et c'est Laurent Genefort, Pierre Bordage et Laurent Well qui jouent eux-mêmes
petits noms de la science-fiction.
Voilà, ils jouent leur
des
propre inconnus. Rôle de détectives, quoi. Ils vont devoir tout simplement résoudre des trucs à base de Totoro et puis d'aliens bizarres, quoi.
La monographie Lovecraft aussi. Essentiel. Et un mot en dehors de ActuSF, un auteur.
En ce moment, oui, je pense que Romain Lucaso. Moi, j'attends beaucoup le prochain Shinami Evil. On n'en a pas parlé, mais.
Non, on n'en a pas parlé, qui est un auteur majeur aussi. Qu'est-ce qui vous a séduit, Catherine Dufour? Déjà, vous, votre actualité à vous, des publications en cours, des publications prochaines?
Non, je réfléchis en ce moment.
Vous réfléchissez en ce moment. Alors, un ouvrage que vous conseilleriez aux auditeurs qui ne vous ont pas lu?
La croissance mathématique du plaisir.
Chez
Recueil de nouvelles. Au Bélial.
Chez Au Bélial.
Voilà, parce qu'il y a un peu de tout, comme ça vous pouvez tester tous les genres, la science-fiction, la fantasy, le fantastique.
Et un auteur qui vous passionne récemment?
Alors vous allez lire, vous foncez chez Zulma à lire Love Star de Snarlnar Snertson.
Alors on va vous le mettre sur le fil Twitter de l'émission.
Love Star chez Zulma. Vous googlez, je suis sûre que vous allez le trouver.
Merci infiniment. Catherine Dufour, Jérôme Vincent, Olivier Girard, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toute la chouette équipe
de la méthode scientifique. Jacques Azubert à la technique, Charles Barjou au droit d'auteur. On jette vite fait un œil à ce que nous vous avons concocté dans le labo de la méthode scientifique pour la semaine prochaine. Lundi, on parlera des troubles alimentaires. Mardi, de la disparition programmée des coraux. Mercredi, c'est la question de l'invasion des statistiques, surtout en période électorale. Jeudi, de la nature, peut-être divine, des mathématiques. Qui sait ? Langage inventé par l'homme ou intrinsèque à la nature de l'univers, la déraisonnable efficacité des mathématiques. Bref, et vendredi, table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Dans un instant, le magazine de la rédaction consacré à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes par Véronique Rebérotte. On se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.